Et nous accueillons Virginie au 3921. Bonsoir Virginie.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir. Vous m'entendez bien ?
Oui, je vous entends très bien. Je crois que vous appelez de très loin, Virginie.
Oui, enfin, bon, j'appelle des États-Unis. J'appelle du Texas.
Oui.
Voilà. Et en ce moment, on a une espèce de tempête tropicale. Alors, je me dis, j'espérais que la communication se fasse bien.
Mais écoutez, je vous entends comme si vous étiez à côté.
Ah bon, c'est super. Alors, la tempête tropicale, entre parenthèses, elle s'appelle Beta, qui fait rire tous les Français ici, et voilà. Mais non, il y a beaucoup de pluie, mais bon, ça va. Donc, je suis contente que... J'ai un trac hallucinant, parce que ça fait très très longtemps que j'écoute la Libre Antenne. Ça fait... Puis je vous écoute, bah, vous aussi en particulier, tous les matins, quand je fais mon jogging.
D'accord.
Voilà, donc ça fait tout drôle.
Et, comme ça, vous pourrez vous écouter demain matin.
Voilà, ça va faire drôle. Je sais pas si, on verra. Mais en fait, voilà. Alors, je voulais vous parler ce soir. Je voulais parler de l'autisme, de ce qu'on appelle ici Asperger, parce que mon fils a été diagnostiqué à 8 ans. Et je voulais un peu parler de mon expérience. Et je dis pas que on a tous des expériences différentes, mais en fait, j'aurais bien aimé, quand j'ai eu mon petit garçon, j'aurais bien aimé pouvoir échanger, j'aurais bien aimé qu'on me dise ce que je sais maintenant. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais partager ce que j'ai appris, parce que je ne connaissais rien du tout d'autisme, à part, vous savez, le film avec Dustin Hoffman, là, où il est...
Vous avez
une image très, très caricaturale. Et en fait, c'est pas du tout ça, quoi. C'est pas du tout ça. Et donc, voilà, je voulais parler un peu de ça et ce qui nous est arrivé. Et je pense que, bon, ça nous est arrivé aux États-Unis, mais je pense que, bon, évidemment, c'est l'expérience des parents en France, ça doit être. Je pense que ça va. Il y en a qui vont se reconnaître peut-être dans ce que je vais raconter. Voilà.
Oui, il y a de fortes
alors,
chances.
Voilà, voilà. Donc, en fait, j'étais ici aux États-Unis, donc j'ai perdu ma maman il y a longtemps, malheureusement. Donc, première fois que j'ai un petit bébé avec mon mari, voilà. Et comme toutes les mamans, je suppose que c'est pareil en France aussi, ici, il y a une espèce d'abondance d'informations, les réseaux sociaux, il faut que le bébé soit comme ci, soit comme ça, les milestones, les différentes phases, voilà, il doit marcher à tel âge, il doit faire ceci à tel âge. Bon, j'essayais de pas trop suivre ça, mais bon, je regardais un peu, je suivais comme ça de loin. Mais j'avais remarqué en fait que mon petit garçon en fait avait un retard de langage,
oui.
Et qu'il avait aussi qu'il marchait, il était très maladroit, il marchait pas très bien. Enfin, il a marché vers, je crois que c'était 20 mois, un truc comme ça. Donc c'était assez âgé, quoi, hein, quand il a commencé à marcher. Et tous les médecins et tout le monde me disaient, en fait, « Ah, mais tu te fais trop de soucis, tout va bien, il va très, très bien. » Mais par contre, il y avait des petites choses que je remarquais, moi, en tant que maman. Alors, c'était assez bizarre pour nous parce que, par exemple, il était assez insensible à la douleur. Bon, il avait des vaccins, ça lui faisait pas grand-chose. Et puis, il était insensible au chaud et au froid. Ça ne le dérangeait pas tant plus que ça.
D'accord.
Mais sinon, autrement, un petit garçon super normal, voilà. Et puis, arrivé à 2 ans, il a commencé à être absolument fasciné par les ascenseurs. à tel point que moi, des fois, pour l'amuser, je l'emmenais dans un centre commercial. On faisait tous les ascenseurs. Enfin, il connaissait toutes les marques d'ascenseurs. Il était absolument ascenseur. Et un de mes amis, un de mes très bons amis, m'avait dit, tu sais, c'est un marqueur de l'autisme, obsession, des obsessions comme ça.
Oui.
Mais bon, j'en avais parlé autour de moi et on m'avait dit, bon, écoute, pas vraiment, quoi. Bon. Mais en fait, finalement, moi, je m'en fichais un peu parce qu'il était super équilibré, même jusqu'à ses 5-6 ans. Il était un peu particulier, c'est-à-dire qu'il adorait, vous savez, le roman de Charles Dickens, Christmas Carol, il adorait comme ça des trucs, il avait des goûts comme ça un peu gros, particuliers, mais il était finalement heureux, donc bon, un petit garçon heureux, moi je m'en fiche, quoi, voilà. Et par contre, on a eu un tournant absolument à 180 degrés à ses 7 ans, où a commencé à... Alors, il se débrouillait très bien à l'école. Il a commencé à plus rien faire à l'école. Et puis, j'ai reçu un jour un mail de la maîtresse qui m'a montré qu'il avait écrit sur ses cahiers « Je suis un bon à rien, je suis nul, je sers à rien ». Voilà. Et donc, c'était assez alarmant parce qu'il a 7 ans. Donc, alors
c'était
on m'a
très violent hein, pour 7 ans d'écrire
c'était
ça.
C'était très, très violent et c'était très subi aussi. Donc, bon, je lui ai demandé, alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, il voulait pas trop en parler. Donc, on est allé voir, bien sûr, aux États-Unis, tout de suite, on est allé voir un psy qui m'a dit, mais non. Alors, je lui ai dit, parce que c'était quand même, j'avais cette impression, je me suis dit, est-ce qu'il est sur le spectre de l'autisme? Est-ce qu'il a un problème? Et tout de suite, mais non, voilà, encore une fois, une maman qui te fait beaucoup de soucis, vous êtes trop, vous en faites trop, enfin bon, alors que, bah, non, bon. Mais alors, la réponse ici, ça a été, il faut le mettre sous médicament parce que il a du mal à se concentrer, alors que c'était pas du tout le cas, justement, Thomas pouvait se concentrer de façon assez impressionnante à son âge. Donc, alors, je suis malheureusement tombée sur des professionnels qui n'ont pas su reconnaître l'autisme à ce moment-là, quoi. Et donc, on a quand même, bon, on s'est dit, voilà, ça, c'est une phase, ça va passer. Et puis, ça ne s'est pas passé parce que je le voyais de plus en plus, il était extrêmement malheureux. Et je disais, du coup, à mon mari, bah, écoute, ça doit être toi et moi. ça doit être nous en tant que parents, on fait pas bien notre boulot parce que je comprends pas. Il a tout ce qui, pas tout ce qu'il veut, mais je veux dire, on roule pas non plus sur l'or, mais on est bien. Mon mari et moi, on s'entend bien, on se dispute, bon, mais pas tous les enfants, mais quand on se dispute, mais on est une famille quand même assez unie.
Oui.
Et je comprenais pas pourquoi il était aussi malheureux. Et donc, je suis allée voir une psy pour moi et mon mari. En lui expliquant ce qui se passait, et elle m'a dit « Ah, mais ce que vous me décrivez sur votre fils, c'est exactement le... ça ressemble beaucoup à Asperger. » Voilà, bon. Alors, ça m'a beaucoup étonnée parce que, d'un côté, il est hypersensible. Il arrive à sentir... Quand quelqu'un est triste dans une pièce, il arrive à sentir et les émotions. Il arrive à les capter, mais d'une façon assez, assez incroyable. Et puis j'avais toute cette image justement de l'autisme qui était des gens qui justement étaient un peu, qui avaient du mal à lire certaines émotions et alors que c'est pas du tout notre cas à nous en tout cas, il arrive à... Mais aussi le truc que j'ai appris sur l'autisme, c'était que c'est extrêmement physiologique, physique. Et je crois que ça passe, en tout cas pour nous, c'est passé d'abord par le physique.
Qu'entendez-vous par là, Virginie ?
Parce qu'il est très, très sensible. Il y a qu'ils appellent ici des problèmes sensoriels. Donc, quand il était bébé, justement, c'était bizarre parce qu'on dirait qu'il n'avait pas de sensation au toucher. Mais maintenant, par exemple, le goût, tout ce qui passe par la bouche, le goût, il est extrêmement sensible. À tel point, par exemple, les haricots verts, ça le fait pleurer quand il les mange. Alors, si on n'a pas ce diagnostic-là en tant que parent, ben, on se dit, mais bon, voilà, mon gamin fait des caprices. Bon, j'ai des amis aussi hein, qui me disent qu'ils ne sont pas du tout d'accord avec le diagnostic. D'ailleurs, bon, il y a beaucoup d'experts. Hein, une fois qu'on a un diagnostic, tout le monde se transforme en expert.
Oui.
Et qui me disent, mais non, en fait, tu dois le discipliner. Mais je trouve que c'est terrible pour un enfant. Ça doit être hyper angoissant, je pense, de s'apercevoir qu'on ne ressent pas les mêmes choses que la plupart des gens autour de soi.
Oui, oui, oui.
On n'entend pas de la même façon. Le toucher n'est pas le même. Les bruits, la vision. Alors moi, je m'en veux énormément parce que j'étais peut-être un peu sous pression aussi de tous ces les modèles qu'on voit sur les réseaux sociaux, bon, les trucs. À Houston, on a ce truc qui s'appelle le rodéo. Alors, je dis un jour, tiens, on va aller au rodéo du Sun, tous ensemble, en famille, on va, voilà. et alors, mais Thomas, encore une fois, il avait peut-être 6 ans, et il m'a dit comme ça, vraiment très froidement, « Maman, je vais mourir. » en plein milieu du truc, parce que c'était très, il y avait de la musique partout, donc c'était très très pour lui c'était insupportable. Il y avait des lumières et des trucs qui arrivaient dans ses yeux, et puis il y avait l'odeur aussi des animaux. Donc ça a fait que son cerveau était complètement déboussolé. Et alors, moi, je m'en veux énormément parce qu'on l'a fait rester là-bas, parce que je ne savais pas à l'époque. Hein. On se dit, ouais, il fait des caprices et tout ça, mais non, regarde, tout le monde s'amuse. Et à un moment, il m'a dit, maman, je crois que je vais mourir. Et c'est là où j'ai dit, bon, on s'en va, mais j'étais en colère contre lui, quoi. Alors que, après, tout ça, ça m'a... J'ai compris, après, si vous voulez, quand j'ai eu ce diagnostic, j'étais presque contente quand on a... J'étais contente quand on a eu ce diagnostic. Donc, c'était... C'est super important. Voilà.
Pourquoi en fait, vous dites qu'il a eu peur là-bas au rodéo, parce que finalement, toutes ces odeurs, tous ces bruits, sa perception plus dense des bêtes, en fait, de tout ce qui émanait ouais. de ces bêtes, là, lui a fait très peur.
Et ça lui a fait peur, et puis moi, j'ai compris que, en fait, l'autisme, c'est en fait, dans son cas en tout cas, on a fait des IRM, on a fait plein de... ils ont le cerveau, en fait, qui sont beaucoup... qui assimilent les informations beaucoup plus rapidement que nous. Et donc, quand il y a un flux d'informations comme ça qui arrive, des images, des odeurs, des sensations, des trucs, tout en même temps, le cerveau, ça devient très, très pénible pour lui. Et en plus, il s'aperçoit que ben, tout le monde va bien. Donc, pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que lui n'arrive pas à rester dans un environnement comme ça? Et lui, ça lui fait énormément de peine,
ouais,
même
comprends.
Encore maintenant.
Et
j'essaie de ne pas le mettre dans... Des... Oui.
On va continuer justement à en parler ensemble, Virginie, afin de voir si, quel travail est possible par rapport à...
Oui.
À nous, hein, c'est-à-dire le monde extérieur, on va l'appeler comme ça, ou le monde de l'enfant, à savoir quel travail on préconise pour vous et pour cet enfant afin de réduire la
oui.
distance, en fait, finalement. Mais on marque une
oui.
petite pause et puis on revient tout de suite. D'accord ? À tout de suite.
D'accord.
(22h47, vous êtes sur Europe 1 et c'est votre libre antenne jusqu'à 1h du matin, chers amis. Vous pouvez composer le 39-21 pour nous joindre. Nous échangeons ce soir avec Virginie qui évoque son enfant de 7 ans, son petit garçon de 7 ans. Et Virginie, vous évoquez donc la perception hein, de votre fils,
oui.
une perception accrue des odeurs, de l'atmosphère, en tout cas de presque une... Comme une perception animale, en fait. Hein. Vous parliez des
oui,
odeurs, des bêtes.
Ouais.
Et donc, quel travail peut être fait est-ce que c'est un travail plus sur l'enfant, en fait, qui est fait pour justement réduire cette perception ou le faire comme, je ne sais pas moi, comment vous dire accepter ça, en fait, lui expliquer que
ouais.
Il est comme ça, qu'il est différent, mais que ça n'est pas grave, finalement, qu'il
ouais.
ressent les choses mieux ou différemment des autres.
Oui, alors lui, en fait, on est passé par beaucoup de malheureusement, de mauvais moments pour lui parce qu'il a été vraiment harcelé à l'école. Et maintenant, on l'a mis dans... Il est dans une école, en fait, où il n'y a que des aspis. Asperger.
Oui.
Et donc, alors ce que je sais, c'est que ces sensations, elles changent au cours de la vie. J'écoute pas mal, parce que moi je suis très podcast, j'écoute pas mal de podcasts de gens, en fait, d'adultes Asperger qui ont été diagnosés à des âges différents. Et on voit la différence, en fait. Plus on est au courant du problème tôt, bien sûr, plus on arrive à manager ça très bien. Par exemple, c'est très intéressant parce qu'il y a la façon. Alors, je vous l'explique d'une façon. Et je suis sûre qu'il y a des gens qui vont écouter, qui vont dire bon, d'accord, c'est très simplifié. Mais la façon dont leur cerveau pour eux, c'est très très difficile de regarder quelqu'un dans les yeux.
Oui.
Et donc, nous, on discutait toujours notre petit avant en disant « Non, non, il faut que tu regardes dans les yeux. » Mais pour lui, c'est très difficile de regarder quelqu'un dans les yeux. C'est beaucoup plus confortable de vous parler en regardant à côté.
Oui, oui, oui.
Et ben, ils ont justement, à l'école où ils sont, ils apprennent en fait à regarder le nez. Mmh. Quand on parle à quelqu'un, tu regardes le nez et comme ça, l'illusion est presque parfaite.
Ouais.
Et donc, ils apprennent à manager ça. Le problème aussi des ASPI, c'est que c'est très, très difficile à détecter quand vous rencontrez quelqu'un. Vous ne pouvez pas vraiment le voir tout
le
de suite.
Le détecter, en fait, comme ça.
Le détecter. Et en fait, c'est ça le drame. C'est que les gens se disent, même j'ai des amis qui ont des enfants qui ont un autisme assez profond, et qui me disent « mais ton gamin n'a pas de problème ». Et pour moi, c'est difficile d'entendre ça parce que si, c'est difficile. Parce que il a, par exemple, bon, là, il a 10 ans. Hein, on lui a été diagnosé à 7 ans, mais il a 10 ans. Et quand il s'est disputé avec son meilleur ami il y a quelques mois, et son premier réflexe, c'est de me dire « je veux mourir ». J'entends mon petit garçon de 10 ans qui me dit assez souvent qu'il veut mourir. Bon, est-ce que... C'est assez terrible de dire ça. Alors, est-ce qu'il le pense vraiment? Je pense.
Oui.
Est-ce qu'il le ferait? Je ne pense pas. Mais il a été à des moments dans sa vie, malheureusement, quand il a été harcelé à l'école, où il m'a dit « Maman, si tu ne m'étais pas sortie de cette école, je serais mort. Je me serais... » Donc, c'est très... moi, quand on me dit c'est un autisme léger... Oui, bon, les symptômes que les gens voient sont légers, mais les symptômes que nous, en tant que parents, nous voyons ne sont pas légers. C'est très, très lourd, des fois, à supporter. Et moi, je sais, quand il me dit ça, j'ai du mal. Il se frappe aussi, des fois, ça lui arrive.
Ouais.
Un peu moins, parce que, apparemment, oui, la vitamine D, je ne sais pas pourquoi ça le fait moins se frapper, mais... Il a une telle, il ne s'aime pas, et donc dès qu'il fait quelque chose, dès que par exemple il fait pleurer sa sœur ou qu'il y a un petit accident, il la fait tomber, il a son premier réflexe, c'est de se frapper, voilà, parce que il dit c'est de ma faute, et donc c'est tous ces trucs là qu'on essaie de manager qui est, je crois, alors aux États-Unis il y a plein d'options en fait. Pour dans les écoles publiques, pour avoir des enfants qui sont sur le spectre de l'autisme. Dans le cas de Thomas, moi, j'étais pas très... avec cette histoire d'harcèlement qui s'est passée, je voulais qu'il soit dans un milieu un peu plus protégé. Donc, il est en ce moment dans une école où il est entre ASPI. Et je dois dire que ça lui a fait énormément de bien de voir qu'il y avait des autres enfants... pas comme lui, parce qu'ils sont tous différents, mais au moins qui ont les mêmes des symptômes un peu similaires. Et d'être aussi avec des adultes là qui le comprennent, quoi, l'aider. Et ça lui a fait... Enfin, depuis ce temps-là, il est très, très... Enfin, il s'épanouit, quoi.
Mais
il
je pense que vous pouvez entretenir un certain espoir... par rapport au fait que lorsqu'il va mûrir, c'est-à-dire lorsqu'il va grandir,
oui.
Je pense qu'avec la maturité, il acceptera peut-être plus sa différence. Et puis,
oui.
Bon, bien évidemment, il y aura toujours des éléments dans cette société qui seront perturbateurs pour lui, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui acceptent mal la différence ou qui la perçoivent mal,
oui.
Tout simplement. C'est souvent plus par bêtise qu'autre chose.
Oui.
Mais
oui.
Il a quand même une intelligence très vive. Et donc, tout ça risque de tout de même l'élever et de l'amener à accepter mieux sa différence. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, en tant que maman, mais quel est votre sentiment par rapport à ça?
Alors, je lui ai acheté un livre sur l'autisme, parce qu'ici, on est très, très ouvert là-dessus, dans son école. Et donc... ici, alors c'est ça, je suis tombée sur un réseau absolument incroyable de gens qui voient l'autisme en fait comme un pouvoir, un potentiel. Et donc, alors Thomas me dit souvent, voilà, j'ai un super pouvoir, mais malheureusement, j'ai un prix à payer pour ça. Alors, et il me dit aussi, alors il veut être très très bon en programmation informatique,
oui.
Mais il est aussi, il est fasciné par les thérapies, figurez-vous, donc il veut être thérapeute en ce moment,
oui.
Voilà, ça va changer certainement. Mais il m'a dit, voilà, maman, l'autisme, c'est pas une maladie parce que ça ne change pas qui je suis. Alors, j'ai trouvé que c'était très...
Très, très réfléchi,
et on
ouais.
voit vraiment le... Voilà, et j'ai trouvé que c'était vraiment, c'était ça. Et par exemple, pour vous donner un exemple, donc, les gens à qui j'ai parlé, qui sont Asperger ici, qui avaient des problèmes justement, comme lui, qui mangeait des haricots et qui pleurait parce que ça leur faisait mal,
ouais.
Ils sont devenus, il y en a un qui est devenu œnologue, parce qu'il a un palais très, très incroyable, quoi.
Oui, Blandine.
Il a pu exploiter ça.
Blandine, 739-21, oui. Nous dit que l'hypersensorialité,
voilà.
Oui, est un trait caractéristique des autistes. Bruit,
voilà.
Odeur, toucher, goût. Et il est vrai que autour de ces sens hein, surdéveloppés, ils peuvent se diriger vers des métiers où on a besoin de ce type de sens. Il a cette conception des choses comme ayant un peu des hyper-pouvoirs, votre fils?
Ah oui, complètement.
C'est
complètement,
bien.
Mais
c'est
il
bien.
Me dit encore, mais il n'est pas, pas... Alors, il s'aperçoit, par exemple... Alors, bon, ça aussi, ça m'a fait beaucoup penser à réfléchir sur l'intelligence. Qu'est-ce que l'intelligence? Parce que, pour moi, tout le monde est intelligent. Ça ne veut rien dire... c'est pas parce que, justement, on est Asperger qu'on est forcément intelligent. Ça, c'est pas... Enfin, on est forcément... brillant et justement il y a tout un côté incroyable qui de comment dire de street smart comme on dit ici où les aspis ne savent pas se vendre par exemple dans un entretien, ça c'est pas possible. Alors par exemple on nous conseille ici là à l'école où il est bon ça c'est pour plus tard mais et je trouve que ça s'applique aussi aux gens qui n'ont pas d'autisme et qui ne savent pas se vendre. C'est de commencer à mettre un portfolio, de faire une espèce de dossier sur toutes les choses qu'on peut faire. Par exemple, lui, il est bon en code, en programmation informatique, et commencer à imprimer des pages de code qu'il sait, par exemple. Et comme ça, dans un entretien, hop, on montre ce qu'on est capable de faire. Voilà, plutôt que d'essayer de se vendre et de faire des comme ça des entretiens qui vraiment ils sont pas bons pour ça. Enfin le mien en tout cas n'est pas bon pour ça. Mais voilà donc mais ça je sais pas d'entendre des adultes aspis qui s'en sortent et qui arrivent justement à faire de leur handicap un super pouvoir. Ça c'est ça fait ça fait plaisir, puis au moins c'est un... Oui, et puis j'ai toute confiance en Thomas pour ça. Ce que j'aimerais, alors par contre, des fois, je me dis, qu'est-ce que j'aimerais qu'il soit heureux, en fait.
Oui, mais ça viendra,
profondément.
Ça viendra.
Voilà.
Ça viendra, Virginie, voilà. Parce qu'il évoque certains moments difficiles, comme il évoque sans doute des moments heureux. Ce qui est certain, c'est que...
Oui.
Aujourd'hui, on est dans les entreprises, dans le milieu du travail, on mise de plus en plus sur sur nos qualités transversales, c'est comme ça qu'on les appelle, et qui sont basées aussi sur l'hypersensibilité, sur notre côté empathique. Et donc, il y a de toute façon, comme vous dites, des gens intelligents partout et des gens idiots partout. Et donc, du coup, on peut avoir... plein d'espoir, en tout cas pour Thomas. Vous restez avec moi, on conclura juste après l'info, parce que là, on marque encore une pause, d'accord ? À tout de suite, Virginie.
D'accord, pas de problème.
23h passées de 4 minutes, vous êtes sur Europe 1, c'est votre libre antenne jusqu'à 1h du matin, si vous nous rejoignez juste maintenant. Vous pouvez nous joindre au 3921 ou nous écrire au 739-21, suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace. Nous échangeons avec Virginie qui nous appelle des États-Unis pour nous parler de Thomas, son fils de 10 ans. Thomas, autiste Asperger, qui aujourd'hui, tout de même, Virginie, on l'évoquait avec vous. Il y a du mieux, j'ai l'impression, d'année en année, en fait. L'école a sans doute joué un
oui.
rôle primordial dans cette évolution, mais on sent qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il évoque l'avenir, en fait, plus.
Oui, 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 il évoque l'avenir. Il est, puis bon, il est tout à fait conscient de ce qu'il a. Et du coup, quand il est pas, quand il y a des situations où il n'est pas confortable, Il arrive à me le. Enfin, d'abord, je le sais, je le vois, mais il arrive aussi à me le dire. Et, par exemple, quand il y a des nouveaux enfants, quand il va dans une fête d'anniversaire où il y a beaucoup trop de monde, beaucoup trop de bruit, il me dit, maman, il faut que je m'isole un peu. Et voilà, il n'y a pas de problème, quoi. Tandis que. Bon, alors, il y a bien sûr des gens qui nous regardent d'un drôle d'air en disant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, il fait des caprices, machin. Mais bon, là maintenant, je crois que j'ai assez maintenant de confiance en moi pour ne pas vraiment écouter. J'ai décidé de ne plus écouter les gens en fait. Voilà.
Oui, mais c'est mieux, c'est mieux.
En ce qui concerne, voilà.
Il faut suivre votre instinct. Il faut suivre votre instinct.
Exactement.
Il faut suivre aussi. Voilà. Je trouve que quand on a un enfant différent, il faut bien se mettre dans son rythme et justement voilà. Vous parliez de perception, percevoir ce qu'il perçoit lui, et c'est la meilleure manière de, je trouve, de réduire cette différence, cet écart, en tout cas voilà, ne pas écouter les autres tant quand ils vous disent que tout va bien, aussi bien que lorsqu'ils remarquent qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien, parce que les gens qui ne sont pas tout le temps avec ses enfants, ne peuvent pas percevoir justement les choses, je trouve.
Voilà, et c'est pour ça que je ne leur en veux pas. Hein. C'est en général les gens qui ne savent pas trop de quoi ils parlent et qui nous donnent des conseils sur comment s'occuper de nos enfants. Et vraiment, moi, j'aurais... maintenant, je le sais, voilà, j'ai l'expérience, mais j'aurais aimé le savoir à ce moment-là j'aurais dû m'écouter un peu plus. Mais bon, d'un autre côté, voilà, on a le diagnostic quand même, il est assez jeune et je suis contente finalement parce que bon, ça nous aide en fait à nous à le comprendre et il va pas être, je me dis, il va pas être gâté ou c'est pas qu'on est plus indulgent avec lui ou non, c'est pas ça, c'est qu'on s'adapte à ce qu'il peut essayer de ressentir, et je pense que comme ça, il grandit dans un environnement où il a confiance.
Et voilà, ce qui est très important pour avoir échangé ici sur cette antenne avec au moins deux adultes qui étaient autistes Asperger, c'est vraiment toujours d'accompagner son enfant le plus longtemps possible, de veiller justement à ce qu'il soit toujours bien, heureux, et il n'y a aucune raison qu'il ne trouve pas sa place, parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, et je pense qu'aux États-Unis aussi, il y a de plus en plus de personnes qui travaillent sur la question de l'autisme et qui ont créé des places, en tout cas qui réfléchissent à créer
Exactement.
Des places pour ces enfants qui deviendront des adultes et qui devront travailler et qui devront eux aussi mener une vie la vie la plus heureuse possible. En tout cas, merci mille fois, Virginie.
Et même pour des autismes profonds. De rien, merci beaucoup à vous de m'avoir entendu si longtemps.
Mais je vous en prie, je vous
merci
en prie.
Beaucoup.
Et puis, bon courage pour la vie et puis bon courage pour cette
merci.
Tempête tropicale. D'accord ?
Merci beaucoup, Olivier.
Je vous en
encore.
Prie. Bonsoir, Virginie.
Au revoir.